légale de Adam, insoumise et diabolique mythique.
Martine, la fille parfaite des livres pour enfants.
Et les autres?
Ben, c'est nous, quoi. C'est vous.
Et on a fait une blague qui disait « Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau qui tombe à l'eau. »
Le patriarcat.
Un vendredi sur deux, 18h, Lilith, Martine et les autres, pirates les autres de Radio Canu, pour une heure de mutinerie féministe.
Radio Canu, 102.2.
Adèle se lève et elle se casse. Ce soir du 28 février, on n'a pas appris grand-chose qu'on ignorait sur la belle industrie du cinéma français. Par contre, on a appris comment ça se porte, la robe de soirée. À la guerrière. Comment on marche sur des talons hauts comme si on allait démolir le bâtiment entier. Comment on avance le dos droit et la nuque raidie de colère et les épaules ouvertes. La plus belle image en 45 ans de cérémonie. Adèle Haenel quand elle descend les escaliers pour sortir et qu'elle vous applaudit. Et désormais, on sait comment ça marche. Quelqu'un qui se casse et vous dit merde. Je donne 80% de ma bibliothèque féministe pour cette image-là, cette leçon-là. Adèle, je sais pas si je te male gaze ou si je te female gaze, mais je te love gaze en boucle sur mon téléphone pour cette sortie-là. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait « Oui, on est les connasses, on est les humiliés, oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups, vous êtes les boss, vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec, mais on restera pas assis sans rien dire, vous n'aurez pas notre respect. » On se casse.
Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé de films d'horreur, de ce qui nous faisait peur. On a essayé de comprendre ce que ça faisait dans le corps, avec le chimique, les hormones, tout ça.
Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une construction sociale avec, entre autres, les patriarcats derrière. Ce soir, on a envie de se donner de la force ensemble et réfléchir à comment, face à nos peurs, on se défend physiquement, peut-être, mais pas que, aussi psychologiquement, mentalement.
On est allé rencontrer une personne qui travaille dans une association d'autodéfense féministe et on lui a tendu le micro pour qu'elle nous raconte ce qu'il s'y passe et comment.
Est-ce qu'on se défend pareil des mêmes choses partout? On accueille aussi ce soir une personne dont le travail de recherche s'est tourné vers l'autodéfense féministe et notamment en Colombie. Tout cela ponctué de lecture du livre d'Elsa Dorlin, Se défendre. Alors bonne écoute.
Partir du muscle plutôt que de la loi. Cela déplacerait sans doute la façon dont la violence a été problématisée dans la pensée politique. Ce livre, Se défendre, se concentre sur les moments de passage à la violence défensive, des moments qui ne m'ont pas semblé pouvoir être rendus intelligibles en les soumettant à une analyse politique et morale centrée sur des questions de légitimité. Dans chacun de ces moments, le passage à la violence défensive n'a d'autre enjeu que la vie. Ne pas être abattu d'emblée. La violence physique est pensée ici en tant que nécessité vitale, en tant que praxis de résistance. L'histoire de l'autodéfense est une aventure polarisée, qui ne cesse d'opposer deux expressions antagoniques de la défense de soi. La tradition juridico-politique dominante de la légitime défense d'une part, articulée à une myriade de pratiques de pouvoir aux diverses modalités de brutalité qu'il s'agira ici d'excaver, et l'histoire ensevelie des éthiques martiales de soi, d'autre part, qui ont traversé les mouvements politiques et les contre-conduites contemporaines en incarnant avec une étonnante continuité une résistance défensive qui a fait leur force.
On vous a dit qu'on était allé tendre le micro à une personne qui travaille dans une association d'autodéfense, alors elle va nous raconter.
Du coup, l'asso Impact, elle a été créée en 2018 à la suite d'une ancienne asso qui s'appelait Autodéfense et Autonomie, qui avait 10 ans. Et du coup, c'est une asso d'autodéfense féministe sur Lyon et alentour, et agglomération quoi. Et ce qu'on fait, donc actuellement il y a 2 salariés et 7 bénévoles. On dit membres actifs entre nous plutôt que bénévoles. Actifs. Donc on donne des stages, on propose des stages en fait d'autodéfense féministe. Bah, j'expliquerai après ce que c'est plus en détail. Mais voilà, c'est globalement des formats de 2 jours. Pour des structures qui nous sollicitent et où nous on va donner un stage dans la structure, soit on en organise aussi nous des stages où les gens s'inscrivent librement, plutôt sur des week-ends du coup. Et les structures, ça peut être la mairie de Villeurbanne, un centre social, un foyer, voilà. Et du coup c'est des stages qui sont pour femmes et minorités de genre. Et aussi, ma collègue, elle fait des stages pour adolescentes. Et filles aussi. Du coup, à partir de 8 ans. Et il y a un autre programme dans l'asso qu'on est en train de développer. J'en parle parce que c'est important. Ça s'appelle CAP, Clé pour l'autonomie et la prévention. Et en fait, c'est de l'autodéfense pour enfants. Donc là, il y a pas longtemps, il y a eu un podcast qui est sorti là-dessus. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont entendu parler de ça. Et du coup, en fait, on propose d'intervenir dans les écoles pour en gros outiller les enfants face aux violences qu'elles peuvent subir ou vivre, et en fait sensibiliser les adultes qui les entourent, du coup que ce soit le corps enseignant ou non enseignant de l'école, et puis les parents. Du coup voilà, et là on est en recherche d'écoles qui seraient motivées pour nous proposer d'intervenir dans le Grand Lyon, quoi. Dans la lutte contre les violences, il y a 3 niveaux de prévention. Il y a la prévention primaire, c'est là où on se situe. Donc c'est avant que les violences arrivent. Bon, comme on part du principe que tout le monde vit des violences, mais c'est vraiment c'est créer une culture de prévention en général. La prévention secondaire, c'est la prise en charge des victimes une fois que... ça dépend comment on veut nommer les personnes qui ont vécu des violences. Une fois que ça a eu lieu. Et la tertiaire, c'est plutôt la gestion avec l'agresseur, l'agresseuse, voilà. Et du coup, nous, c'est vraiment pour ça que... c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. On n'est pas dans le domaine du sport, en fait, on est dans le domaine de la santé. Parce que on lutte pour que y ait moins de violences dans le monde et pour que quand elles se produisent, elles aient des conséquences moins graves pour les personnes qui les subissent.
Bon, ce soir aussi, on a une invitée qui vient nous parler de sa recherche sur la autodéfense féministe, qui va nous expliquer maintenant. Donc maintenant, bienvenue Fernanda. Merci pour être là, et je te laisse parler un peu sur qu'est-ce que tu fais en rapport à ton sujet de recherche.
Ok, d'abord merci beaucoup pour m'avoir invité. C'était trop cool d'avoir cet espace pour parler un peu des mouvements de résistance féministe qu'on a dans l'Amérique latine, et notamment en Colombie. et visibiliser un peu ce qu'on fait pour surmonter un peu les stéréotypes qui, voilà, qu'il y a partout, mais surtout ici en France par rapport aux personnes racisées et par rapport aux femmes latino-américaines. Et bah, du coup, moi, c'est Fernanda, je viens de Colombie et je suis sociologue. Et actuellement, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Complot Féministe. Et aussi, dans le cadre de mon master, EGALAPS, pour l'égalité dans les activités physiques et sportives. Et j'ai fait une recherche sur l'autodéfense féministe. Un peu, j'essaye de faire une comparaison parmi la France et la Colombie, entre la France et la Colombie. Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que tu comprends comme autodéfense féministe?
Oui, carrément. Et, je vais m'appuyer surtout dans la définition d'Irene Selinger. Elle nous dit que la pratique physique, que l'autodéfense est une pratique physique qui agit dans l'expérience émotionnelle, mentale et physique des femmes. Un peu pour... pour faire face à la violence, un peu pour prévenir la violence faite aux femmes. Mais aussi, l'autodéfense, c'est important de dire que l'autodéfense, ce n'est pas qu'une activité individuelle. L'autodéfense, c'est une lutte collective. Et une lutte collective envers le système genre qui est inégalitaire. Et envers aussi au dispositif défensif. Et qui nous met aux femmes et aux certaines aussi corporalités dans une situation où on n'est pas les sujets de notre propre défense. Et c'est un peu la résistance à ce système d'ailleurs. Alors c'est ça.
Super. Je voulais juste aussi te demander particulièrement pourquoi tu as décidé de faire ce travail sur l'autodéfense. Est-ce que tu pratiques aussi? Pourquoi ça t'a intéressé spécialement?
Et oui, j'ai pratiqué l'autodéfense en Colombie pendant plus ou moins 5 ans. Et après, quand je suis venue ici en France, j'ai continué à pratiquer dans un collectif. Et voilà, je pense que c'est surtout parce que c'était une chose très personnelle, surtout. Parce qu'avant, quand j'étais adolescente, j'avais une relation un peu conflictuelle avec les sports. Et c'est grâce à l'autodéfense que j'ai commencé à pratiquer beaucoup de sport et aussi à militer dans les mouvements féministes. Parce qu'il y avait aussi réticence un peu au féminisme, un peu blanche de l'université et tout ça. Mais si je me disais, moi-même, je suis féministe. Et il y avait un peu de réticence, mais j'ai trouvé cet espace que c'était trop cool. Et je pense que c'est pour ça. Parce que pour moi, l'autodéfense, c'est... quelque chose qui est émancipateur pour les femmes et émancipatrice pour les femmes, et je pense que c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est important.
Responde al llamado de tu instinto feroz. Se una con tu sexo y hallarás esa voz. En ti hay una herida que duele la confianza. templanza. Esta es tu cara, porque es tu quintesencia. El canto de tu alma, puesto en evidencia. Con el ojo pelado, abre tu conciencia. Deja el miedo de la feminidad en resistencia.
Et Marika qui nous ont chanté Autodefensa. Et maintenant, on va revenir sur la personne qui présentait le collectif Impact, et elle va nous présenter l'autodéfense pour les enfants.
C'est un programme qui existe depuis les années 70 aux États-Unis. Et en 2015, il y a tout un groupe de formatrices qui ont été formées à Nantes par des personnes des États-Unis. Et ensuite, en fait, ça s'est lancé dans toute la France. Et avec l'assaut de Grenoble, donc Ancrage, on a relancé ça depuis 2020. Et du coup, nous, à Impact, Ancrage intervient depuis 2020. Et nous, on commence à intervenir cette année. Selon comment on est perçu dans la société, on ne va pas nous appliquer le même type de violence. Il y en a qui se recoupent. Mais du coup, c'est pas la même violence qui s'est... Enfin, par exemple, les filles de 8 ans vivent pas les mêmes violences forcément que des femmes de 30 ans. Il y en a qui se recoupent, mais il y en a qui sont différentes. Et du coup, c'est aussi pour adapter, et aussi pour adapter les stratégies de réponse. Et la différence, après, l'autodéfense pour enfants, là où c'est différent, c'est que pour nous, c'est complètement mixte. Du coup, on part du principe que... les enfants, ils sont perçus comme vulnérables. Et du coup, là, c'est en mixité filles et garçons. Et aussi tout type de genre, quoi. Et après, c'est juste que, du coup, notre programme pour les enfants, il est cadré différemment parce qu'on va aller intervenir en milieu scolaire. Et du coup, on va dans les écoles faire... En fait, on va dans les classes pour faire les ateliers pour les enfants. Et ensuite auprès des adultes qui les entourent dans les écoles. Et du coup, c'est un autre format. Et aussi, on sensibilise les personnes qui les entourent. Donc ça, c'est différent des stages d'autodéfense où là, que ce soit pour les filles ou les ados ou les adultes, on vient vraiment pour soi. Et on demande à ce qu'il y ait justement, il n'y ait pas les parents quand c'est des ados, etc., les parents sont pas présents en fait, c'est des temps qui sont pour les personnes.
T'es la fin des années 60 où c'est à Tunis, dans un contexte où la mobilisation des minorités raciales et sexuelles est à son acmé, les Black Panthers font école. En juin 1969, les révoltes de Stonewall marquent un tournant quant à la libération homosexuelle et trans, en écho au mouvement de libération des femmes antiracistes et anti-impérialistes. Pour l'ensemble de ces mouvements, c'est l'État et sa police qui assassinaient. Dès 1965, à San Francisco, les militantes LGBTQ organisait la résistance contre les persécutions policières des minorités sexuelles. Au début des années 70, les Gay Liberation Front, GLF, participent à de nombreuses actions avec ou en soutien du Black Panthers Party, l'articulation des luttes anticapitalistes, antiracistes et antipatriarcales, et alors l'un des piliers de l'analyse politique des nombres des mouvements coalisés. Dorlin, un extrait de son bouquin « C'est défendre ». Et maman, on revient sur la conversation avec Fernanda. Et j'aimerais bien savoir si tu peux nous expliquer un peu les différences que tu as trouvées entre l'autodéfense en Colombie et en France.
Et bon, et j'ai trouvé deux différences principalement. Et la première, c'est le niveau de professionnalisation. Je pense qu'ici en France, il y a une espèce de professionnalisation de la pratique où les personnes qui ont envie de devenir des animatrices font des formations, et il y a aussi des associations qui sont un peu formellement construites, et des associations qui ont un organigramme, qui ont des fonctions un peu plus
carrées,
oui. Et en Colombie, par contre, c'est complètement différent. Et je pense qu'il y a une espèce de résistance du côté des collectifs de devenir plus institutionnel. Et il y a aussi une résistance à la professionnalisation de la pratique. Et la pratique en Colombie reste dans des collectifs, plutôt collectifs anarchistes, et aussi de ce qu'appelle ici en France l'extrême gauche. Et ça reste un peu comme la résistance à l'institutionnalisation et à la professionnalisation, même s'il y a des espaces de formation, comme des espaces de festivals d'autodéfense féministe. Il y a quelques années, il y avait un festival où les collectifs se formaient entre eux. Et aussi, il y a comme une espèce de formation aux personnes en général. Et je pense que c'est ça une des différences. L'autre différence, c'est le côté des participantes. Et en Colombie, la pratique reste un peu dans les femmes cis, surtout. La plupart des participants sont des femmes cis, un peu classe moyenne et blanches métisses, même si je sais que la question de la racialisation et tout ça, c'est différent dépendant des contextes et tout ça, mais ouais, ça reste un peu comme ça. Et ce sont des personnes qui ne sont pas racisées dans les contextes de Colombie. Et par contre, ici en France, il y a plus de personnes racisées dans les espaces, et il y a aussi plus de personnes queer, des personnes trans. Et aussi, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que même s'il y a ce côté de professionnalisation, il y a un autre côté, qui c'est le côté des collectifs. Et c'est un peu comme une coexistence d'un côté entre la professionnalisation avec les assos et tout ça. Et d'un autre côté, on trouve les collectifs qui ont aussi une réticence un peu peur. C'est que j'ai écouté des personnes qui font partie des collectifs, et c'est qu'il y a une résistance appelée comme comme autodéfense, même parce qu'il y a cette professionnalisation. Mmh. Alors, ils ont vu ça comme une manque de légitimité pour appeler sa pratique comme autodéfense. Même si il y a plein de similitudes, il y a des alliances, des similitudes entre les collectifs en Colombie et les collectifs en France. Et il y a plein de similitudes par rapport aux alliances, par rapport au développement des ateliers, des séances. Mais oui, je pense que c'est ça surtout les deux différences principales que je trouve. Oui.
Tout à fait. Bon. Je me demande si c'est aussi en rapport à une culture, à cette manière un peu tout, un peu institutionnalisée de faire l'autodéfense ici.
Oui.
Qui peut-être c'est aussi associé à une manière en général de faire les choses en France, qui est mon expérience en Latinoamérique aussi, ça dit que c'est un peu moins là. Peut-être, surtout si c'est des pratiques qui sont plus hors de système.
Oui, c'est ça.
Le contenu, en gros, en fait, c'est de l'autodéfense. En fait, on fait de l'autodéfense dans un stage verbal, physique, émotionnel, psychologique et mental. Alors, c'est quoi la différence entre tout ça ? Physique, c'est des gestes simples et accessibles d'autodéfense physique. C'est-à-dire, on va pas apprendre une clé de bras hyper compliquée. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on fait des gestes simples, efficaces, accessibles à tous, à tous les corps, à toutes les conditions physiques. On adapte aussi aux mobilités qui sont présentes pendant le stage. Pour l'autodéfense verbale, ça va être de répondre. On met en commun. En fait, c'est surtout la technique, c'est ce qu'on utilise comme technique d'animation, c'est pas tellement que nous on propose des outils, mais plutôt nous on crée un cadre pour que les participants eux mettent en commun leur stratégie, parce qu'on part du principe que tout le monde se défend tout le temps dans la vie, toutes les personnes se sont déjà défendues et savent se défendre, et du coup on crée un cadre pour que ça, on puisse mettre en commun nos stratégies qu'on a déjà utilisées, que ce soit l'humour, la confrontation, etc. Voilà. Et après, du coup, pour ce qui est autodéfense émotionnelle et psychologique, c'est comment je fais pour prendre soin de moi au quotidien dans une société où, comme je suis une minorité, je me prends de la violence. Et du coup, comment je fais pour mettre en place des trucs qui me font du bien et qui font que je vis mieux, quoi. Comment aussi je fais pour prendre soin de moi suite à une agression, pendant une agression, voilà. Et tout ça, ça participe à l'autodéfense mentale, du coup. Et l'autodéfense mentale, je sais pas trop... Moi, je dirais que c'est plutôt comment... En fait, comment on vient travailler sur l'idée qu'en fait, on a le droit de se défendre. C'est pas parce qu'on est une minorité que c'est normal qu'on dépasse nos limites tout le temps et qu'on nous fasse de la violence. Et on a le droit de faire respecter nos limites, et on a aussi à la fois on a le droit et en même temps aussi on est capable, parce que on nous construit beaucoup de... Enfin, on est beaucoup construite comme en tant que minorité comme étant incapable de se défendre, après de plein de manières différentes. C'est pas pareil si on est un mec gay cis que quand on est lesbienne racisée, par exemple. Mais du coup, il y a quand même cette construction qui nous dit ok, toi, soit t'es pas capable de te défendre, soit si tu le fais, il va y avoir des représailles ensuite parce que tu t'as pas le droit, en fait. Du coup, j'ai fait toute une boucle pour dire ça. C'est comment on travaille sur l'autodéfense mentale, et on passe pour bosser sur ça, on passe du temps à rappeler que, enfin, à se redire entre nous, et ça nous fait du bien, que quand on nous agresse, en fait, c'est la faute de l'agresseur, c'est lui qui a choisi de nous agresser, c'est sa responsabilité. Oui, il y a une interaction de violence entre nous, lui, il l'instaure. Moi, si je me défends et que ça me semble violent, c'est son choix d'avoir posé de la violence à la base. Du coup, moi, c'est pas de ma faute si je me défends, en fait. C'est pas...
Constituer la sécurité comme norme de vie n'est possible qu'à la condition de produire des insécurités contre lesquelles l'État apparaît et se présente comme le seul recours. Dans les années 70, les groupes de lesbiennes noires, Women of Color, This World, ne cessent de dénoncer cette logique qui a des effets sur l'agenda féministe. La violence policière, dont elles et aussi leurs enfants sont parmi les cibles privilégiées, va de pair avec la construction raciste des femmes noires réputées à ce point capables de se défendre qu'elles n'auraient pas à être défendues, pire, qu'il est nécessaire de se défendre d'elles, et à plus forte raison lorsqu'elles sont en groupe. L'équipe de softball Gente, auto-organisée en groupe d'autodéfense féministe de lesbiennes noires fondée à Auckland, souligne en 1974 combien les lesbiennes de couleur paraissent invisibles si elles sont seules, violentes si elles sont en groupe.
Bah là, on voit encore, j'ai l'impression qu'on entend depuis le début de cette émission, que voilà, l'autodéfense, elle peut pas se faire toute seule, elle est collective, et aussi qu'elle est pas la même selon les groupes de personnes, les discriminations. J'ai l'impression qu'à la fois la personne qui parlait de France disait ça, Elsa Dorlin, là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, se défendre, elle dit aussi ça, selon nos positions situées, ben on va pas créer l'autodéfense de la même façon. On a entendu un peu les différents types d'autodéfense développés en France, physique, émotionnelle, psychologique, mentale. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes différences et cette manière globale d'appréhender l'autodéfense en Colombie?
Oui, je pense qu'on a plus ou moins la même structure. Et la même chose que je n'ai pas dit, c'est que ma recherche est centrée surtout sur les collectifs. Je n'ai pas toutes les associations comme Impact, par exemple. Et j'ai tout qui est des collectifs, et même dans les collectifs, je pense que c'est une chose qui est moins encadrée que dans les associations. Mais il y a toujours en tout cas, on essaye de mettre aussi les côtés, pas que nous centrer dans la partie physique et dans les parties des arts martiaux, par exemple. Et on traite en tout cas de vinculer dans les formations aussi des questions de formations sur l'autodéfense verbale, en tout cas ça. Et je pense que oui, il y a des différences, surtout parce qu'on n'est pas, par exemple en Colombie, on n'est pas formé, par exemple, dans les différentes méthodes d'autodéfense féministe. Et là, je pense que c'est différent, mais il y a des similitudes en tout cas.
On essaye que ça soit pas trop théorique. Après, ouais, il y a un petit temps où on fait, alors c'est quoi les différents types de violences? Parce qu'on va parler aussi des violences, par exemple, économiques, ou des violences... en fait, au début, juste, on fait un point sur les types de discrimination qui peuvent exister, juste pour que tout le monde soit un peu d'accord dans le stage et qu'on se rende compte aussi que, ben, en fait, il y a des discriminations à plein d'endroits et peut-être que j'aime bien prendre l'exemple de si j'ai un problème avec la CAF et que mon dossier il est bloqué depuis 6 mois, ça peut me mettre vraiment en galère et du coup c'est hyper violent pour moi, ça me fait une violence administrative pardon, et aussi institutionnelle d'être en galère de payer mon loyer parce que mon dossier à la CAF est bloqué. Donc voilà, et après je vais à la CAF, je pète un câble parce que c'est trop compliqué, et du coup j'engueule et j'agresse complètement la personne qui est à l'accueil de la CAF, et du coup là hop je change de point de vue, je suis la personne qui est à l'accueil de la CAF, ça n'a rien à voir avec moi si le dossier de la CAF est bloqué, je me reçois tout dans la figure de cette personne et du coup je me reçois une agression aussi. Du coup, il y a plein de types de violences et de discriminations à plein de moments. Et du coup, nous, on fait le point au début du stage pour dire que... pour que tout le monde capte un peu que, en fait, peut-être on va aussi parler des situations à des moments où les personnes ne sont pas concernées. Et ça permet aussi que les personnes... C'est pas le but du stage, mais ça permet aussi juste que les personnes puissent se poser des questions à des moments sur... Ok, est-ce que moi j'ai pu. Est-ce que je peux exercer de la violence? À quel endroit? Enfin. Après, c'est pas du tout le but du stage, mais c'est juste pour avoir une base commune de. Ça, c'est quoi en fait un dépassement de limite? Et ça permet de venir nous dire. Enfin, venir faire passer le message que tout dépassement de limite, il est. Ben, en fait, quand quelqu'un vient dire là t'as dépassé ma limite, ou là t'as exercé de la violence sur moi, ou tu m'as agressé. En fait, c'est légitime parce que chaque personne a ses propres limites. Et peut-être que parfois on les perçoit pas parce qu'on a des angles morts, parce que bah moi je sais pas, telle personne a des angles morts parce qu'elle a jamais été inscrite à la CAF par exemple. Voilà.
Dans le contexte républicain, le droit de porter une arme constitue un véritable enjeu quant à la reconnaissance de la citoyenneté. Les tentatives pour dégenrer et déracialiser l'héroïsme civique promu par les idéaux de la Révolution permettent aussi ainsi de dénoncer les interdits qui pèsent sur les femmes, les hommes esclaves ou libres de couleur. Mais si l'un des enjeux de l'accès aux armes est bien pour ces exclus de l'universel, leur inclusion dans la citoyenneté active, ce n'est pas le seul. On y voit aussi la possibilité d'y acquérir une formation martiale nécessaire à la lutte sociale. Le problème de ce point de vue est que de ne pas avoir le devoir de défendre la patrie équivaut à ne pas avoir le pouvoir de se défendre, à rester désarmé dans la guerre continuée pour l'égalité. On pourrait ainsi, en inversant les termes, dire que l'inclusion dans un corps armé permet un accès à la maîtrise des armes et aux savoirs martiaux. Un exemple paradigmatique pris dans l'histoire de la Révolution française est celui des femmes, à peine tolérées à écouter les débats des assemblées révolutionnaires, qui tricotaient pendant que les orateurs échangeaient sur les limites des droits universels. L'activité signalée par le mot tricoteuse, celle d'une paisible mère de famille, est positive. Mais s'échappant d'un coin de l'âtre pour prendre place sur la scène publique, déplacée, elle est dotée d'une charge négative. Et dans l'imaginaire, les aiguilles sont aussi symboles de cette perfidie, elles qui pourraient devenir dangereuses, armes ne disant pas leur nom, instruments de travail dévoyés à des fins sanglantes. Elsa Dorlin, se défendre.
Ouais, en fait, c'est juste que nous, on fait la différence entre self-défense et autodéfense féministe, parce que nous, on s'inscrit vraiment dans... C'est un peu... Enfin, après, il y a plusieurs méthodes, et je vais pas détailler parce que ça aurait pas trop de sens, mais... du coup, ce qu'on essaye quand même de faire comme différence avec la self-défense, enfin, en tout cas pour nous, là où c'est différent, et voilà, c'est que en gros, nous on n'est pas du tout des dans le domaine du sport. En fait, on n'est pas du tout des formatrices sportives, enfin, on n'est pas des profs de sport, quoi. Du coup, souvent la self-défense, ça se pratique dans des clubs. D'arts martiaux avec des profs, voilà, et c'est trop chouette et c'est trop bien que ça existe, mais du coup nous c'est différent, parce que justement on vient travailler sur le verbal, sur l'émotionnel. Parfois il y a aussi ça dans les clubs de self-défense, c'est sûr, mais du coup je sais même plus ce que j'ai dit tout à l'heure comme formulation, mais en gros nous on est formés à en fait c'est quoi un psychotrauma suite à des violences. Comment ça se crée, comment on fait pour éviter que ça se crée et comment on réagit aux conséquences que ça produit. Et du coup, on est formé aussi à tout ce qui est décortiqué, l'emprise dans le couple, les violences conjugales dans les couples LGBT, dans les couples hétéros. Enfin voilà, on a toute une formation comme ça. En fait, on vient aussi bosser sur la construction et du coup la déconstruction aussi de la peur qu'on a, on peut l'appeler peur sociale par exemple, et c'est en fait comment tout au cours de notre vie on apprend plein de choses avec nos expériences, et du coup quand on est enfant et que la société nous assigne comme fille, on vient nous dire que je sais pas, on est ado et on commence à nous dire que il vaut mieux pas sortir la nuit parce que sinon, ou alors il vaut mieux pas que tu t'habilles comme ça parce que sinon, voilà, donc il y a une peur qui se construit avec le temps et puis aussi qui se construit aussi avec les expériences qu'on vit en fait, tous les dépassements de limites, les agressions, les insultes dans la rue, enfin les violences, du coup tout ça, ça se construit. Et puis après, on nous dit aussi que voilà, qu'on est quand même moins forte que les hommes, que de toute façon, il y a toute une culture du viol avec plein de productions de films où en fait les personnes, les femmes qui subissent des agressions, elles n'arrivent pas à réagir de toute façon parce qu'elles sont trop faibles. Et du coup, nous, on a tous ces modèles-là. Et après, quand on cherche un modèle où on réagit, où on se défend, il y en a moins, ou il n'y en a pas beaucoup. En fait, nos stages, ils servent aussi à dire, en fait, on peut se défendre. C'est ce truc de... Déjà, on a le droit. Et aussi, on peut, parce que il y a plein de stratégies qu'on met en commun et en fait on vient et en fait il y a à plein de moments dans notre vie on s'est déjà défendu. En fait on croit que quand on est parti sans rien dire on s'est pas défendu, mais en fait si, parce qu'on s'est mis en sécurité et que l'agression elle a pas continué. C'est sur des trucs comme ça et c'est aussi sur des trucs de, enfin on... voilà, je vais pas détailler en détail le contenu des stages, mais en fait tu penses que t'as pas de force, mais quand tu portes des sacs de course et que tu pousses la poussette ensuite toute la journée, bah ça c'est des pratiques hyper physiques qui nourrissent et qui font accroître ta force physique. Donc par exemple ça, voilà, c'est un truc sur lequel on vient bosser. Et voilà, et après on travaille aussi un tout petit peu quand même, ça rejoint un autre truc que je disais tout à l'heure, sur il y a aussi des peurs qui sont construites parfois qui sont légitimes parce que voilà, ça peut être lié à des expériences qu'on a eues, mais parfois certaines peurs elles sont aussi construites par rapport aux stéréotypes, aux préjugés qu'on a par exemple on peut avoir des stéréotypes racistes qui sont liés à la société dans laquelle on vit, qui vont faire que si on croise un homme racisé on va plus penser qu'il va nous agresser que si on croise un homme blanc, ou alors s'il est mieux habillé on va penser qu'il va moins nous agresser, alors qu'en fait ça c'est pas lié et qu'il y a des violences qui s'expriment de partout, de plein de manières, dans tous les milieux, et donc ça on vient bien le redire au début pour aussi bosser sur cette construction là des peurs.
Fernanda, je voulais aussi retourner un peu sur la différence, ou comment tu peux dire, est-ce que l'autodéfense est un peu pareil à la self-défense ou à la pratique physique, ou est-ce qu'il y a une différence, il y a une spécificité?
Oui, il y a des différences, comme on a un peu parlé avant, et l'autodéfense féministe, c'est un côté plus collectif. Et ce sont des pratiques qui, même s'ils sont pratiques physiques, et agit aussi sur l'expérience émotionnelle, verbale et mentale des femmes. Et il y a aussi un côté critique et réflexif dans l'autodéfense féministe, que ce n'est pas le cas de la seule défense, et plus de la seule défense qui a un peu une approche plus fitness, ce type de choses. Et je pense que c'est important aussi. Un peu faire la différence entre les arts martiaux et l'autodéfense. Et parce que, par exemple, même si les arts martiaux ont commencé la plupart comme des espèces de pratiques de défense, et l'autodéfense utilise aussi des arts martiaux. Et il y a plein de différences, par exemple, les côtés de l'excellence, de la performance, de la discipline, les hiérarchies, et un peu les côtés plus compétitifs. Ça, c'est pas comme ça dans l'autodéfense, c'est pas les buts. Et je pense que c'est une des différences les plus importantes, et parce que dans des arts martiaux, il n'y a pas ces côtés réflexifs, ces côtés critiques, et ça marche pas comme ça dans les arts martiaux. Je pense que c'est ça.
C'est comme prendre des subtils un peu, des arts martiaux ou des pratiques plus sportives, mais dans ce sens plus critique qui est pour se défendre.
Oui, exactement.
Et ça, c'est ainsi, tu l'as vu en Colombie et en France dans les collectifs?
Oui, je l'ai vu, et d'abord un peu moins en Colombie, mais ça a commencé à changer. Et maintenant, c'est plus réflexif et c'est plus critique qu'avant. Mais bon, on avance.
Dans l'histoire constellaire de l'autodéfense moderne, le mouvement des suffragistes anglaises au début du XXe siècle fait figure de référence. Une partie de ce mouvement demeure emblématique de par son positionnement théorico-politique concernant son refus du recours à la loi et son antinationalisme. Dans une certaine mesure, il permet d'identifier un courant du mouvement féministe moderne qui fait du passage à la violence la conséquence logique d'une analyse de l'oppression des femmes et de leur maintien dans la minorité comme étant structurellement le fait de l'État. Passer à la violence, celle de l'action directe et de la revendication sans compromission, est ainsi inextricablement liée au constat que la revendication d'une égalité civile et civique
ne peut être adressé pacifiquement à l'État, puisque ce dernier est le principe instigateur des inégalités, qu'il est en vain de lui demander justice, car il est précisément l'instance première qui institutionnalise l'injustice sociale, qu'il est donc illusoire de se mettre sous sa protection, puisqu'il produit ou soutient les mêmes dispositifs qui vulnérabilisent, qu'il est même insensé de s'en remettre à lui pour nous défendre, puisqu'il est précisément celui qui arme ceux qui nous frappent.
En fait, on passe beaucoup de temps aussi à légitimer la fuite. La fuite, c'est notre première stratégie de défense. La mise en sécurité, c'est notre première stratégie de défense. Et quand quelqu'un nous insulte dans la rue ou nous harcèle ou quoi, et qu'on répond pas parce qu'on n'a pas envie et qu'on n'a pas l'énergie et qu'on ne sait pas quoi répondre ou qu'on a peur, en fait, on est en train de se défendre. Du coup, ça, c'est beaucoup. On appuie beaucoup là-dessus pendant les stages. Et l'autre truc que je voulais rajouter, qui a rien à voir, c'est que j'avais quand même envie de parler, vu que votre émission précédente, elle était sur la peur, de l'adrénaline. Parce que, du coup, moi, ce que je dis dans les stages, c'est que l'adrénaline, c'est. Donc, c'est un. Une. Ouais, hormone, je sais plus. J'ai pas les termes physiques, mais en gros, c'est. C'est. Mais non, il y a un autre mot. Bon, bref. Qui est à la fois notre allié et aussi, des fois, peut nous desservir. C'est notre allié parce qu'elle va décupler notre force, notre énergie, faire que sur le moment on sent pas la douleur. Mais c'est aussi la saturation en adrénaline. En vrai, le processus chimique est là un peu plus complexe, mais voilà. C'est la saturation en adrénaline qui fait que parfois, en fait, on se fige et on n'arrive pas à se défendre. Et du coup, en vrai, c'est notre corps qui est en train de se protéger à ce moment-là. Donc, en fait, notre corps se défend. Mais ce qui fait qu'on n'arrive plus à réagir physiquement, en fait, à bouger. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi. C'est un processus physique de tous les mammifères, enfin, de plein de mammifères. Et du coup, ça, comme expérience, ce qu'on peut appeler, je sais pas, la sidération ou se figer, enfin, il y a pas mal de personnes qui ont pu expérimenter ça. En fait, c'est pas une fatalité. Il y a moyen de bosser dessus et de mettre en place plein de choses dans la vie pour que le jour où il nous arrive quelque chose qui nous fait boum, exploser l'adrénaline et que en fait pour que ça reste dans un niveau de tolérance, dans un niveau où nous on continue de réagir en pouvant utiliser cette adrénaline. Et en fait, il y a des outils pour travailler là-dessus. Et du coup, tout notre stage, il sert à ça aussi. À faire que, à un moment, il nous arrive un truc. Et nous, en fait, on vient utiliser tout ce qui se passe en notre corps en notre faveur, quoi. Et voilà. J'avais juste envie de rajouter ça parce que c'est vraiment hyper animal que la peur provoque. C'est vraiment une réaction chimique. Et c'est pas. Parce qu'on est nul, parce que c'est notre faute, etc. Par contre, oui, c'est lié au fait que toute notre vie, on nous a dit tu sauras pas te défendre. Parce que peut-être d'autres personnes, si elles ont en tête qu'elles vont pouvoir se défendre, elles vont chimiquement utiliser leur adrénaline à un niveau plus raisonnable qui va faire qu'on va pas se figer.
L'autodéfense devient effectivement un art total en raison de sa panoplie de techniques martiales pragmatiques et efficaces, mais surtout en raison de son aptitude à créer de nouvelles pratiques de soi qui sont autant de transformations politiques, corporelles, intimes. En libérant les corps des vêtements qui entravent les gestes, en déployant les mouvements, en détournant, dévoyant l'usage d'objets familiers, parapluies, épingles, broches, manteaux, talons, en ravivant des muscles, en exerçant un corps qui habite, occupe la rue, se déplace, s'équilibre, l'autodéfense féministe instaure un autre rapport au monde, une autre façon d'être. Ainsi, en apprenant à se défendre, les militantes créent, modifient leur schéma corporel propre, qui devient alors en acte le creuset d'un processus de conscientisation politique. Elsa Dorlin, se défendre.
Moi, c'était arrivé une fois où en fait en sortant de l'ascenseur de mon immeuble, j'avais été coincée par un gars qui m'avait empêchée de sortir. Et du coup, j'avais eu ce moment de tétanie et j'ai réussi à me sauver, en fait, mais en glissant entre ses jambes. Et après, je me suis dit, il faudrait absolument que j'apprenne des prises, des, des méthodes de défense, d'autodéfense, pour si jamais ça m'arrive à nouveau.
Donc j'étais en troisième, il me semble. Et j'étais à l'arrêt de bus quand il y a trois individus de type masculin qui sont arrivés à cet arrêt. J'ai attendu mon bus arriver, et il se rapprochait toujours plus de moi et j'avais super peur parce qu'il commençait à parler fort, à me regarder avec insistance, à me pointer du doigt, enfin bon.
Et quelques temps plus tard, ma meilleure amie, en rentrant chez elle le soir, a été attrapée par trois ou quatre mecs qui ont essayé de la faire rentrer de force dans une voiture. Et elle a eu ce moment de tétanie et puis... À force de se débattre, ils ont abandonné, quoi. Elle a été extrêmement choquée.
Et j'étais super apeurée. Et là, il y a une mamie qui est arrivée à l'arrêt de bus qui, sur le moment, dit rien. Et en fait, elle voit le comportement des trois individus. Et elle se tourne vers moi et fait « Oh, ma chérie, j'avais pas vu que t'étais là. Faudrait que tu penses à appeler ta mamie plus souvent. » Enfin, un truc du genre. Mais en gros, elle a clairement dit... Enfin, elle s'est clairement fait passer pour ma grand-mère.
Du coup, je lui ai dit... écoute, moi, j'ai commencé à regarder à la bibliothèque, dans des bouquins sur le judo, ce qu'on pouvait faire pour se défendre. Et ensemble, on s'est entraînés, quoi, pendant quelques semaines. On dormait souvent chez l'une, chez l'autre. On se faisait des prises et on parlait beaucoup. Et elle me disait, je ne sais pas comment me défendre, je suis tétanisée, j'ai peur.
Dans le bus, elle me tenait la main, je me suis assise à côté d'elle et je me rappelle que j'étais super apeurée parce que en fait, j'étais face aux trois harceleurs. Et ils me regardaient vraiment d'une façon dont je me souviendrai toute ma vie. Et c'était très désagréable et je me rappelle qu'avant de descendre à mon arrêt, elle m'a pris les deux mains, elle m'a serré les deux mains entre elles et elle m'a dit « Ma petite... quand vous descendez, s'il vous plaît, courez jusque chez vous, regardez bien derrière qui vous suivent pas et du courage pour la suite, quoi. »
Et donc ce fameux soir où on était dans le RER toutes les deux, on allait à une soirée, c'était le 31 décembre, et il y a un gars bizarre qui s'est assis devant nous dans un carré et il a regardé avec insistance et il a tendu la main vers son genou comme pour la toucher, quoi. Enfin, il a été jusqu'à la toucher et elle avait son sac collé contre son ventre et elle l'a saisi, elle lui a balancé dans la tête. Ça allait super vite et elle a crié touche-moi pas.
Allez, 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 à chaque coup.
Et après, elle était évidemment choquée et tout, mais en même temps, elle l'avait fait, quoi. C'est malheureux d'en arriver là, mais en même temps, ce jour-là, elle a su qu'elle pouvait se défendre. Et on a su, toutes les deux, qu'on pouvait se donner vachement de force.
Je rentrais chez moi après un verre avec un pote. Je prends la 4 à Château d'Eau et j'étais un petit peu éméchée. Et je descends sur le quai du métro et là il y avait pas grand monde. En gros, il y avait une jeune fille de je pense 17-18 ans qui était avec ses écouteurs, qui était en train de marcher pour aller vers la sortie. Moi je descendais depuis le haut d'escalier, donc je commençais à voir le quai et entre elle et moi, il y a un mec qui commence donc genre 30 ans, truc comme ça, 25-30 ans, qui se met devant elle et qui commence en gros à essayer de l'arrêter en rigolant un peu, puis à lui demander d'enlever ses écouteurs, puis il essaye de lui enlever son écouteur pour lui parler. A war on women is a war on us all. The poison the water like they poisoned our soul. They fait, je pouvais pas, de toute façon, je pouvais pas faire comme si j'avais pas vu ce qui était en train de se passer. Il la faisait chier, puis elle était vraiment. Enfin, elle avait pas l'air plus dangereuse que ça, mais je veux dire, elle était vraiment un peu tétanisée, puis elle était assez jeune et tout. Donc, moi, bourrée, j'arrive. Et par derrière, donc elle me voit arriver, et lui, non. Et je pose ma main sur son épaule, mais genre de manière hyper, hyper sûre de moi, hyper virile et tout. Et je pose ma main sur son épaule. Et je dis ouais c'est bon tu la lâches maintenant. Je me suis rendu compte que j'allais absolument rien faire, qu'il allait rien se passer. Donc c'était un coup de bluff et qu'il fallait que je continue à regarder les sourcils très froncés pour faire genre que j'étais très vénère. Merci, puis elle a détalé, et puis lui il a continué à marmonner un truc, et du coup j'ai continué à mal le regarder jusqu'à me retourner pour marcher, et puis en fait il est resté bourré dans son coin, il s'est rien passé, et du coup j'ai compris mon point, je suis allée mettre sur le quai, la meuf est sortie, et c'était super fraîche, j'avais envie de daber, mais je me suis dit non meuf, continue à être sérieuse, fais comme si t'étais vraiment super légère.
Là où on se sépare de certains discours, c'est nous on va pas aller dans des discours qui disent là t'as une posture de victime, tu risques plus de te faire agresser en étant comme ça, parce que ça c'est, enfin ça remet la faute sur la personne qui se fait agresser. On va plus axer sur, en fait si là tu ouvres ton torse et tu prends une grande inspiration, ça va t'aider à prendre un peu ton souffle, avoir plus confiance en toi. Plutôt toujours dans un truc de valoriser les personnes. Et du coup, voilà, c'est plutôt cette approche-là. Et ouais, vraiment, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment beaucoup de valoriser les personnes. C'est pour ça qu'on fait pas une clé de bras ultra compliquée. Parce que en fait, c'est pas évident à prendre. C'est des années de pratique. Et ça peut être décourageant de se dire... ouais ben non j'arriverai pas à me défendre, et du coup nous on a envie que les gens ressortent du stage en sentant qu'elles peuvent se défendre quoi. Du coup moi j'avais fait un entretien avec Fernanda qui va parler dans l'émission sur l'autodéfense aussi, et elle m'avait demandé est-ce que tu trouves que se défendre c'est de la violence. Et du coup moi tout à l'heure j'ai dit ça parce que je l'ai entendu quelque part ce truc de ça peut être violent de se défendre. Et en fait, au fond de moi, je suis pas hyper convaincue parce que... Enfin, au sens où moi, je fais vraiment une différence entre violence et défense, et autodéfense en tout cas, ou défense tout court. Du coup, je sais pas, c'est un peu un casse-tête, mais en tout cas, je trouve ce qui est important, c'est vraiment de venir légitimer les personnes sur le moment... En tout cas, des personnes à qui on a toujours dit qu'il valait mieux pas se défendre, parce que ni elles savent pas faire, en fait, elles peuvent pas faire, elles sont trop faibles, et si elles se défendent, il y aura des représailles. Et ben, moi, je suis vraiment convaincue que... Enfin, je suis à fond pour dire, ok, défendez-vous, et puis après, la violence, c'est... Enfin, c'est une autre question. Enfin, c'est, je veux dire, c'est, là, c'est... La violence, on en subit toute notre vie. Et du coup, juste là, c'est... Je sais pas. En tout cas, une de mes formatrices avait dit ce truc que je trouvais assez intéressant. C'est, il y a une personne qui vient qui m'agresse. C'est elle qui décide qu'il va y avoir de la violence entre nous. Moi, je choisis la direction dans laquelle elle va aller. Donc, est-ce qu'elle va vers moi ou est-ce qu'elle va vers la personne qui m'agresse ? Après, voilà. Moi, c'est ce truc où... Bon, peut-être pour moi, c'est pas exactement de la violence. Et puis après, voilà, évidemment qu'on milite pour une société où la violence, elle est atténuée, où il y en a de moins en moins, c'est clair. Et c'est un système qui nous convient pas. Après, on essaye de l'exprimer tout le temps. Et en fait, si on se défend, c'est parce que il y a de la violence. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me dire c'est la même chose, c'est la même violence. Alors qu'en fait, on voudrait bien qu'il y ait pas cette violence. On voudrait bien ne pas avoir à se défendre tout le temps. et de pas avoir à faire des stages de défense et de pas qu'il n'existe pas d'assaut d'autodéfense. En fait, c'est un peu le but, c'est qu'elle s'auto. Non, mais ça serait super. Le jour où on n'aura plus. Enfin, moi, je serais ravie d'être au chômage technique.
Et oui. Alors, l'autodéfense, est-ce de la violence? C'est un sujet un peu philosophique qu'on n'aura pas trop le temps de creuser dans cette émission.
Peut-être au futur. Merci Fernanda aussi pour avoir venu participer à cette émission.
Non, merci beaucoup pour m'avoir invité. C'était trop cool. Merci.
Merci à toi. Et bien ouais, l'émission elle est encore passée hyper vite. On avait plein d'autres choses à vous raconter. Mais on peut vous dire que vous pouvez retrouver le bouquin en entier d'Elsa Dorlin se défend dans la bibliothèque si jamais vous avez envie de prendre le temps de le lire. Vous trouverez sur le blog tout le nom des musiques qu'on a passées ce soir. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez dire.
On va peut-être écouter les contacts de...
Oui. De Impact.
On a un site internet, c'est asso-6impact.org. On est aussi sur Facebook. Sur le site, il y a notre mail. Du coup, il y a les dates de stage. C'est possible de nous contacter pour savoir quand sont les stages, etc.
Bon, et du coup, en attendant de vous retrouver dans 2 semaines avec une nouvelle émission de Lilith, Martine et les autres, on vous souhaite une bonne soirée et on vous laisse avec le Canu Info.
Et avec Rebel Girl.
Allez.